Question d'islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons de Victor Hugo et l'islam. C'est cette relation qui nous intéresse au plus haut point et j'ai plaisir à accueillir Louis Blin pour parler de ce sujet, Victor Hugo et l'islam. Louis Blin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, historien vous-même et arabisant, diplomate hors pair. Et vous dirigez actuellement le programme de recherche sur le Moyen-Orient à l'Institut universitaire européen de Florence. Et vous vous intéressiez, et vous continuez à l'être, à cette relation entre Victor Hugo, l'homme emblématique, l'homme océan du 19e siècle, l'une des grandes figures de la littérature française, et l'islam. D'emblée, je vous pose la question, comment se fait-il qu'un homme qui était connu pour ses débuts de sa méconnaissance du sujet islam, certains auraient utilisé le terme de nos jours, un islamophobe, qui finit sa vie par être un islamophile?
L'époque l'explique en partie. L'influence de Lamartine, qui était un ami de Victor Hugo, était à mon avis prépondérante. Lamartine, c'est vraiment le principal passeur d'islam de la France à l'époque.
C'est lui qui disait si la grandeur du dessin, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont la marque du génie, qui peut comparer humainement Mahomet à quiconque? Quelque chose de cet ordre, je cite de mémoire, pardonnez-moi, je vous ai interrompu.
C'est exactement ça, c'est la conclusion de sa biographie de Mahomet que je vais rééditer dans une édition critique, c'est mon prochain livre. Donc Lamartine est allé en Orient, hein. Bien sûr, le voyage Orient est bien connu. Par contre, Hugo n'y a jamais mis les pieds. Donc, il n'avait pas les atomes crochus que Lamartine a pu développer avec les musulmans. Il ne s'est donc pas vraiment intéressé aux musulmans, mais à l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il était un fou de Dieu, un passionné de spiritualité.
Et un mystique.
Et un mystique à travers sa poésie. Si bien que les premiers pas de sa recherche spirituelle, comme tout le monde à l'époque, étaient des tâtonnements. Il n'avait reçu aucune éducation religieuse. Mais après la mort tragique, la noyade de sa fille Léopoldine, alors qu'il est arrivé à l'âge mûr, il a recherché des alternatives en Orient. Et il n'avait pas découvert la spiritualité de l'Orient dans son fameux recueil de jeunesse « Les Orientales ». Par contre, à partir de ce moment-là, il ouvre le Coran, il écrit des poésies qui sont des poésies d'interprétation du Coran et il finit à l'âge mûr, donc dans son principal recueil poétique qui est « La légende des siècles » par écrire de grands poèmes sur l'islam.
En préparant cette émission, vous m'aviez dit avec un brin d'humour que nous essayons de comprendre comment il a mal tourné. Parce que les premiers temps, il était, d'aucuns le pensent, plutôt sous l'influence de son mentor. Il voulait être Chateaubriand ou rien. Or, Chateaubriand avait un préjugé tenace, défavorable, contre l'islam et les musulmans d'une manière générale. Ça a dû jouer cela ou pas?
Bien sûr, au départ, c'était donc la fascination pour, depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Orient, qui a poussé Chateaubriand, bien sûr, à entreprendre son voyage, et beaucoup d'autres à la suite, dans la première moitié du XIXe siècle, à s'intéresser à l'Orient. Mais la plupart de ceux qui y sont allés se sont bornés à l'exotique. Par contre, Hugo, lui, qui n'y est pas allé, s'intéressait au spirituel, au côté spirituel. Donc, il a découvert les religions de l'Orient, puisqu'il s'intéressait également au bouddhisme. Mais c'est avec l'islam que la rencontre s'est produite et que ça a fait tilt. Ce qui est passionnant, parce que il n'était absolument pas prédisposé à cela. Il ne connaissait même pas de musulmans à l'époque, dans la France de son époque, il n'y en avait pratiquement pas. Eh bien, malgré cela, c'est l'islam qui l'a interpellé. Parce que, en fait, ça faisait déjà partie de son patrimoine culturel sans qu'il s'en rende compte. Et c'est ça qui est passionnant dans l'évolution de Goethe, de Lamartine, d'Hugo, puis ensuite d'autres, c'est que ce sont des gens qui sont vraiment le cœur de la culture européenne de l'époque et jusqu'à présent considérés comme le summum de notre héritage culturel. Eh bien, on découvre à travers leurs œuvres que l'islam en fait partie. Et même si beaucoup l'ont oublié, puisqu'on a retenu de Hugo de beaucoup d'autres choses maintenant, eh bien, à l'époque, donc, Hugo, tout simplement, s'est mis à suivre les pas de Mahomet.
D'autant plus, ou peut-être ça serait une explication, il n'avait pas d'attache ou de référence catholique réelle. Il aurait été très tôt plutôt un déiste ou un théiste, à vous de nous le dire, peut-être davantage influencé par les idées révolutionnaires d'un Robespierre.
Oui, en fait, c'est quelqu'un d'un difficile à définir sur le plan spirituel. Le slogan sous lequel je définis le mieux, c'est « une foi sans loi ». Il écrivait aussi, dans une de ses poésies, « je crois à Dieu direct ». Donc, il avait été tellement déçu par tous les clergés, notamment le clergé catholique, qu'il considérait que cette religion catholique et d'autres avaient trahi la religion. Donc, il était pour la religion, mais contre les religions. Bien sûr, il s'agit d'une position de principe. Il avait bien compris que l'homme a besoin, ne peut pas se passer de religion malgré cela, puisqu'il a besoin d'un cadre pour exprimer donc sa soif de spiritualité.
Et le fameux besoin, le fameux invariant besoin de transcendance.
Voilà. Alors, parmi les choses que l'islam comporte et que Hugo a découvert avec ravissement, c'est le besoin de transcendance combiné à l'immanence divine. C'était quelqu'un qui était écologiste avant la lettre, Hugo, et il voyait Dieu partout. Avec le Coran, il a pensé que cette présence divine, à la fois immanente et transcendante, était la réponse à ce besoin de spiritualité. Mais alors, comment l'exprimer? Si l'on prend tous les écrits de Hugo, qui sont bien sûr très variés, que ce soit des écrits politiques, théâtre, les romans, enfin la prose, tout ce qui concerne l'islam, c'est dans sa poésie uniquement. Pourquoi? Parce que pour lui, la façon dont on pouvait atteindre ou bien s'efforcer d'atteindre le divin, c'était via la poésie.
Alors, une des phrases qui m'a marqué en lisant votre ouvrage, Victor Hugo et l'islam, c'est cette idée que la création est donc le véritable livre de Dieu, un palimpseste à travers lequel on déchiffre Dieu. C'est une parole islamique.
En fait, on ne peut pas dire que Hugo a été à l'école de l'islam. Il a fait son propre cheminement spirituel qui l'a mené à des considérations, à une philosophie, si ce n'est à une théologie, tout à fait compatible avec celle de l'islam. Alors, ça ne veut pas dire qu'il connaissait l'islam. En fait, il avait une grande admiration pour Mahomet, donc il a notamment découvert sa biographie via celle de Lamartine. Il a admiré le Coran, mais par contre, il connaissait pas du tout ni l'orthopraxie, enfin, ni la sunna, donc il n'était pas vraiment intéressé par ça. Il était intéressé par l'homme, le prophète, qu'il considérait comme un exemplaire, et par la mystique musulmane. Si on reprend l'admiration de Hugo pour Mahomet, il faut comprendre, il faut la remettre dans son contexte. Pour Hugo, comme pour son époque, Lamartine avait montré l'exemple, mais aussi d'autres, le poète avait une mission prophétique. qu'il devait donc, bien sûr, répandre pour le bienfait de l'humanité. Donc, pour ses contemporains, c'était au XIXe siècle, c'était la période romantique. Eh bien, de même que donc Mahomet, le sceau des prophètes, avait répandu donc dans la péninsule arabique la parole divine, eh bien Hugo se considérait comme lui aussi investi d'un message divin et qu'il devait répandre. Et donc, il a trouvé dans Mahomet un exemple à suivre, puisque il considérait que son message était à peu près le même que celui de Mahomet. Et puis, l'époque s'y prêtait, parce que, en fait, Mahomet a toujours été célèbre en Europe. Mahomet l'Européen, comme disait l'ami John Tolan. Donc, ou bien comme repoussoir, ou bien, là, en l'occurrence, comme modèle. Si bien qu'il était évidemment attentif à son lectorat, et il avait bien compris que c'était via Mahomet qu'il pouvait intéresser son lectorat à la spiritualité musulmane.
Et Mahomet, nous disons Mahomet, on ne dit pas Mohammed, parce que lui-même disait cela et c'était écrit ainsi. Vous avez dénombré au moins une centaine d'occurrences sur Mahomet dans l'œuvre poétique de Victor Hugo. Peut-être un mot sur cette distinction entre ce qu'il a écrit en prose sur les musulmans, et les premiers temps c'était extrêmement dur, alors que l'œuvre poétique était plutôt apologétique ou dithyrambique, voire dans certains cas un panégyrique pour le prophète de l'islam.
Oui, alors Hugo avec ses zones d'ombre, et il est tout sauf cohérent. C'est quelqu'un qui était pétri de contradictions. En l'occurrence, il avait absolument pas compris sur le plan politique ce que son pays faisait à l'époque en Algérie. Et donc, il n'avait pas réalisé que son respect pour l'islam contredisait son encouragement à la conquête de l'Algérie.
Il écrit une lettre à Bugeaud,
oui,
l'encourageant, en dépit du discours à la Chambre des députés de Lamartine, où il fustigeait cette conquête génocidaire.
Exactement. Donc, Lamartine était plus lucide. Lamartine avait eu des responsabilités politiques, hein. Pas en 46, mais en 48, pendant la Révolution. Hugo, lui, était trop dans les nuages, disons, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Il n'y avait pas d'empathie dans tous ses écrits politiques et rien n'a concerné l'Algérie. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, d'une part, comme vous le soulignez, toute son œuvre poétique est traversée de réflexions sur l'islam, donc il ne s'agit pas du tout d'un épiphénomène, de quelque chose d'anecdotique, mais c'est une ligne qui a des hauts et des bas, mais enfin qui traverse toute l'œuvre, et d'autre part, elle est indépendante de l'actualité. Hugo s'intéressait à l'islam, mais pas aux musulmans, pour faire court.
Oui, à ce sujet, je pose simplement la question comme médiateur entre vous-même et nos amis auditeurs. Peut-on parler ou pas d'un panthéisme, ou c'est quoi cette phrase « tout est Dieu » ou « Dieu est tout » ? Ça entrait en résonance avec cette parole du grand maître que fut Ibn Arabi lorsqu'il disait, reprenant une parole dite sainte, « Ni messieurs, ni mater ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon adorateur serviteur me contient. » Donc le temple véritable divin, c'est le cœur de l'homme. Et en latin, on dit « si le monde n'est pas capable de Dieu, le cœur de l'homme est capable de Dieu, capax dei ».
Oui, encore une fois, il n'a jamais élaboré de théologie. Il n'a pas laissé de dogme. Mais il voulait simplement guider son lectorat, et puis au-delà, donc son époque, vers le spirituel, et considérer que chacun devait choisir sa voie.
Donc, il disait « je suis solitaire, solidaire ».
Voilà, exactement. C'est une bonne définition de l'attitude donc vis-à-vis des religions en général et de Dieu qui bien sûr, était, on l'oublie trop souvent, la principale, l'obsession quotidienne d'Hugo. Donc, il y avait ce panthéisme qui ressemble beaucoup à celui d'Ibn Arabi. C'est pour ça que je le rapproche de ce mystique dans mon livre. Et il y a un autre mystique qui, à mon avis, a beaucoup influencé sa vision. Alors, je ne sais pas si il faudrait creuser davantage la chose, c'est le Hallaj. Donc, il y a pour Hugo une voie vers la religion qui passe par le mysticisme.
Qui, Hallaj est exécuté, en tout cas connu la passion, a connu le gibet en 922, et c'est lui qui disait « Je suis la vérité où il n'y a dans la robe que Dieu », ce qui lui a valu son procès.
Oui.
Et à l'œuvre monumentale de Louis Massignon pour la passion d'Al-Hallaj.
Voilà, et puis donc Hugo, dans son poème de la légende des siècles, le lapidé, s'imagine un nouveau Hallaj.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du tropisme de Victor Hugo pour l'islam avec Louis Blin. Et nous parlons donc de cette relation. Peut-on parler de fascination, en tout cas moi, à la fin de sa vie pour l'islam?
Une fascination pour Mahomet, certainement. Pour l'islam, ce serait aller trop loin, parce qu'il le connaissait trop mal. Par contre, une symbiose avec la spiritualité musulmane.
Et peut-être que on ne connaît pas les arcanes de la théologie islamique, ni même de son organisation, mais le fait que la foi est ex abrupto directe,
oui,
notamment dans l'obédience sunnite, a dû aussi l'intéresser, puisque lui dit, en gros, les religions sont contre la religion, presque avec grand air.
Voilà, c'est ça. Alors, là encore, il connaissait mal ce qui se passait donc chez les musulmans, mais enfin, il avait été séduit par cet accès direct à Dieu que les musulmans, donc, au départ, se sont ménagés. Enfin, donc, bien sûr, c'est de la théorie, parce qu'en pratique, il a fini par y avoir un clergé, que ce soit chez les sunnites ou les chiites. Mais pour Hugo, c'était tout de même important de voir que chacun avait le choix. Hein, et donc un musulman, jusqu'à présent, quelle que soit la valeur des ulamas qui l'entourent, n'est pas tenu de le suivre, alors que le catholique est tenu, théoriquement en tout cas, de suivre toute la hiérarchie jusqu'au pape.
Oui, parce et en plus, à un moment donné, vous parlez du mufti dont la fatwa, qui est une sorte de réponse, n'a aucune valeur exécutoire.
Oui.
Et on l'oublie de le faire savoir.
Exactement.
Il y a aussi cette idée qui m'avait frappé que pour lui, parfois, le Coran, par antonomase, devient un livre sacré, les Corans. Donc il utilise le pluriel pour dire, pour parler des références scripturaires, religieuses d'une manière générale.
Oui, alors il ne comprenait pas le dogme du Coran incréé.
C'est presque comme les livres sibyllins qui sont un recueil d'oracles grecs.
Oui, enfin, ceci dit, il était persuadé que c'était la parole de Dieu. Mais il considérait que Dieu avait parlé à Mahomet, que Mahomet l'avait tout simplement consigné par écrit. Et il faut voir qu'à l'époque, bien sûr, le Coran avait déjà été traduit. Il y avait, au début de l'orientalisme, de grands esprits qui commençaient à expliquer à quelqu'un comme Victor Hugo, qui n'y connaissait rien, et qui ne connaissait évidemment pas l'arabe, ce que c'était que l'islam. Mais à l'époque, on connaissait tout de même très mal tout ce corpus. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que quelqu'un comme Victor Hugo, qui, encore une fois, n'avait fait aucune étude sur l'Orient, arrive à comprendre à ce point la psyché musulmane et la culture qui, bien sûr, s'est développée après le Coran. Enfin, c'est une capacité à l'interculturalité extraordinaire que moi, je n'explique que par une chose, c'est que Hugo avait compris l'héritage musulman de la culture française.
Et je crois que nos amis auditeurs seraient intéressés de savoir dans quelle traduction a-t-il lu le Coran. C'est celle d'Étienne Claude Savary
Non, c'est plutôt Kazimierski.
Celle de Kazimierski, oui. Son contemporain.
Finalement. Oui, c'est ça. Alors, Lamartine avait plutôt utilisé Savary et lui, Kazimierski. Mais il avait aussi lu Savary, probablement. Oui.
Alors, son islamophobie au sens étymologique, donc la peur, peut-être pas de l'islam, mais des musulmans, en tout cas son dédain pour eux, et pourtant lui qui était pour l'abolition de la peine capitale, pour l'universalisme républicain, en tout cas au moment de la maturité de sa réflexion, ça fait partie de ces zones d'ombre et de ces incohérences. Les hommes et les femmes, les êtres humains, ça importe peu du monde de l'islam. En revanche, l'idéal islamique, et notamment la vie du prophète de l'islam, l'intéresse.
Oui, alors il faut replacer son islamophobie dans le contexte de l'époque. En fait, il est l'héritier, bien sûr, de Chateaubriand, comme vous le soulignez tout à l'heure, mais aussi de Montesquieu, des Lumières, qui, en gros, considérait que l'Empire ottoman, qui à l'époque était la principale puissance, avait cœur la religion, puisque c'était une lecture religieuse de l'histoire tout à fait classique. Et donc, en combinant ce que les philosophes des Lumières appelaient le despotisme ottoman et la religion, ceux qui n'avaient pas vraiment étudié la question considéraient qu'en fait c'était bonnet blanc et blanc bonnet.
Oui. Et surtout son amour pour l'hellénisme et au moment où les Grecs voulaient s'affranchir du joug ottoman, lui il avait cette affinité, cette sympathie qu'il a. Peut-être avec cette identification, le Turc, c'est le musulman.
Voilà, c'était l'époque des têtes de Turc dans les foires. Donc, on s'amusait à taper sur une tête de Turc. Hugo, encore une fois, ne s'intéressait pas beaucoup à tout ça parce qu'il pensait que de toute façon, de même que les catholiques avaient abouti aux excès de l'ancien régime de l'Inquisition, il a une pièce de théâtre extraordinaire sur l'Inquisition, eh bien, de même, les musulmans avaient abîmé l'islam et on ne saurait évidemment lui donner totalement mentor. Donc, ce qui l'intéressait, c'était plutôt la théorie que la pratique. De même que Mahomet était venu rectifier, bien sûr, les prophéties précédentes de façon à rétablir le monothéisme sur de bons rails, eh bien, de même, Hugo, après tous les excès du catholicisme notamment, mais aussi des autres religions, pensait qu'il était là pour rétablir donc une véritable spiritualité respectueuse donc du message divin. Alors, encore une fois, il n'a pas fait les travaux pratiques. Il était au-dessus de la mêlée. Il faut comprendre que Hugo vivait entre ciel et terre. Si bien que on peut pas lui, il n'était pas quelqu'un qui a travaillé à la réconciliation entre les hommes. Il a simplement délivré un message qui, à bien des égards, est humaniste, mais c'était à ses lecteurs, à ceux qui acceptaient de l'entendre, de le comprendre. Ce qui n'était pas toujours facile, parce que y compris les textes sur l'islam sont souvent des textes compliqués à interpréter. Oui.
Alors, il y a aussi cette question le concernant, d'un côté, ou lui-même, essayer de concilier l'esprit cartésien, analytique, scientifique. Il avait des prédispositions à être un bon mathématicien. Après, il se découvre la vocation d'un littérateur, poète, etc. Et donc, une sorte de vision un peu mystique, artistique, et il se disait prophète.
Voilà, alors pour lui, c'était pas du tout contradictoire, et là encore, c'est l'héritage de Lamartine, à mon avis. Pour Lamartine, et si la principale raison pour laquelle Lamartine a écrit la biographie du prophète, c'est qu'il considérait que l'islam, c'était la philosophie parfaite. C'était vraiment la religion rationnelle par excellence, et que donc en comprenant cela, on pouvait réconcilier raison et foi. Donc pour Hugo qui travaille dans la même optique, il y a bien sûr cette raison qui est indispensable. Par exemple, aussi bien lui que Lamartine était complètement hostile au dogme de la Trinité qui lui paraissait complètement absurde. Donc il fallait absolument avoir une religion rationnelle. L'islam était la rationalité dans toute sa perfection à ses yeux. Et donc à cette rationalité donc s'ajoutait une spiritualité qui l'emmenait vers la découverte de l'indicible, de l'invisible, de l'incompréhensible qui est Dieu. Mais ça marche de pair. Raison et foi. Oui.
Sa poésie et ce qu'il met en avant, parfois ce sont des résonances fortuites. Quand il dit, par exemple, dans la lyre et la harpe, dans Ode et Ballade, « Pris, il n'est qu'un vrai Dieu, juste dans sa clémence, tout s'achève dans lui, par lui tout recommence ». Quasiment, c'est du Coran.
Ah oui, c'est extraordinaire. Parce que lui, c'est un poème de jeunesse. Donc, il n'en avait absolument pas conscience. Mais c'est là qu'on voit à quel point les cultures donc musulmanes et chrétiennes, en l'occurrence, en tout cas des catholiques de l'Europe de l'Ouest de l'époque, sont les deux faces d'une même pièce.
C'est pour ça que j'ai parlé de résonance, en réalité, fortuite, non pas voulue, mais c'est ainsi.
Voilà, c'est ça. Mais exactement. C'est fascinant parce que on a complètement oublié ça. Nous, Hugo, bien sûr, a été admiré pour toute son action politique, notamment son message humaniste, bien sûr, sa grande valeur littéraire. Mais on a beaucoup laissé tomber le côté donc spirituel, en général, parce que la société française a un problème avec cette question qui dépasse de loin le problème musulman. Et puis, on a évidemment laissé de côté de grands poèmes qui, pourtant, sont très explicites sur la façon dont l'islam devait et pouvait donc contribuer à la culture française dans ce qu'elle a de plus respecté.
Il y a deux choses. La première, si je puis dire, c'est moi qui assume mon propos. Il aurait appliqué ou pratiqué le rasoir d'Occam pour tout ce qui est irrationnel dans les religions. Et il a trouvé que la moins coûteuse en données irrationnelles serait l'islam.
Oui.
Et en même temps, il y a une sorte de souffle poétique qui sied aux romantiques d'alors, et il y avait je ne sais pas si c'est fortuit ou pas, mais des résonances aussi avec la sourate de Joseph.
Oui, bien sûr. Alors, cette génération découvrait l'islam via son patrimoine religieux, qui était catholique hein, dans la France de l'époque, bien sûr. Donc, la curiosité dépendait évidemment de ce qui résonnait avec le christianisme. L'islam, dans ces conditions, était très riche. Hugo a pensé que on le comprend bien d'ailleurs à la lecture de son grand poème L'an neuf de l'Égir, que non seulement donc lui-même avait vécu des tourments qui ressemblaient beaucoup à ceux du prophète, mais que la mort du prophète sur laquelle donc porte ce poème, et non pas la vie du prophète comme chez Lamartine, eh bien cette mort du prophète avait un côté christique. Donc une espèce de passion du prophète, c'est ça qu'il montre dans cette poésie extraordinaire, qui donc bien sûr est de nature à interpeller les chrétiens qui eux considèrent que la passion du Christ est la seule qui puisse irriguer leur foi. Pour Hugo, au contraire, et il le dit à plusieurs reprises, il faut combiner toutes les fois, puisque ce sont différentes échelles pour arriver au même Dieu. Et à l'époque, c'était un message tout à fait révolutionnaire. Il y avait très peu de gens qui arrivaient à comprendre cela, ne serait-ce que ne pas différencier Allah de Dieu, c'était quelque chose qui était quasiment inaudible.
Oui, d'autant plus que ce n'est pas, et vous le soulignez, ce n'est pas un nom propre, c'est l'appellation arabe de la divinité. C'est un peu comme le « Othéos » grec, le Dieu.
Voilà, donc il avait bien compris ça. C'était pas un théologien, Hugo, mais il avait une telle sensibilité qu'il comprenait ça de manière fulgurante.
Oui. Et alors, il n'avait pas voyagé en Orient. Il y a cette relation un peu avec un Orient exotique ou pas. C'est lui qui disait que du temps de Louis XIV, on était helléniste. En son temps, à lui, c'est le 19e siècle, on est orientaliste et parfois à son insu.
Oui, ou bien malgré lui.
Ou bien malgré lui, oui.
Enfin, c'est ça qui est fascinant chez ces... Mais il n'est pas le seul, hein, parce qu'à la suite, au 19e siècle, il y aura Gérard de Nerval, Jules Verne, Arthur Rimbaud. Enfin bon, il y a plusieurs grands écrivains, sans compter tous les artistes, qui auront donc à peu près le même parcours. Mais ce qui est fascinant, c'est donc de voir que des artistes, puisque bien sûr Hugo était un artiste de l'art poétique, des artistes
et même dessinateur
effectivement, donc des artistes qui comprenaient donc le monde non seulement par leur raison mais aussi par leur sensibilité, ont été conduits, malgré eux, je crois que c'est vraiment malgré eux, à découvrir l'Orient. Parce que, effectivement, c'était quelque chose qui était un petit de l'ordre du refoulé. Il faudrait faire une analyse psy de ce que je viens de décrire.
Oui, et pour le cas particulier de Victor Hugo, il y a aussi l'influence d'Ernest Fouinet, poète, oui, orientaliste, qui a vécu 46 ans, je crois, 1799-1845.
Bravo.
Mais c'était un orientaliste convaincu et admiratif.
Oui, signifie une parenthèse un petit peu entre un passé lourd d'islamophobie, bien sûr avec les croisades, la lutte de la croix contre le croissant, et ce qui va suivre malheureusement à la suite de la conquête de l'Algérie, et donc bien sûr la colonisation qui résultera ensuite sur le choc des civilisations à partir du XXe siècle. Donc cette période période, dans la première moitié du 19e siècle, la période romantique, était très diverse. On pouvait à la fois lire Chateaubriand et Hugo, qui étaient donc, ou Ernest Renan, par exemple, et Hugo, donc qui étaient diamétralement opposés sur la question, parce que à l'époque, il n'y avait pas de politiquement correct. On pouvait être célébré comme un des plus grands hommes politiques, Lamartine, ou bien un littérateur comme Hugo, tout en faisant la louange de Mahomet. Quelque chose qui serait absolument inconcevable de nos jours.
Et particulièrement en France, on pourrait éventuellement le faire ailleurs. Et il s'est opposé à Ernest Renan quand il y a eu cette fameuse leçon au Collège de France sur la négation du progrès, de l'esprit sémitique étroit. Alors pour Ernest Renan, l'esprit sémitique, c'était aussi bien les juifs que les arabo-musulmans. Oui. Et donc il ne souscrivait pas à cela.
Non, mais à ma connaissance, il n'a pas ferraillé avec Ernest Renan parce que Renan faisait partie de ses admirateurs. Et Hugo avait tout de même le sens des réalités.
De le ménager un peu.
C'est
aussi.
Ça, voilà.
En revanche, il y avait peut-être des accointances, notamment avec Goethe, bien qu'il l'eût apprécié modérément ou réellement, je ne sais pas.
Alors, il n'aimait pas Goethe, j'ai jamais compris pourquoi, et je ne sais même pas s'il a lu le Divan, le fameux Divan Orient-Occident de Goethe, était traduit en français en 1835, si bien qu'il aurait dû lire et aimer Goethe. D'ailleurs, Lamartine a mis en annexe de sa biographie de Mahomet tout un passage de Goethe sur le prophète. Donc, ça prouve bien à quel point leur message était parallèle. Il faut dire que Hugo, moi j'ai beaucoup parlé de Lamartine, mais Hugo n'a jamais avoué, accepté, dédié quoi que ce soit sur l'influence de Lamartine dans la région. Non, Hugo, c'était comme le disait avec son humour habituel Jean Cocteau, Hugo ce fou qui se prenait pour Victor Hugo. Donc, il était tellement narcissique qu'il leur aurait été difficile d'avouer quelque influence que ce soit.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de Victor Hugo et de l'islam, de cet engouement, de cette fascination, de l'admiration que Victor Hugo avait pour l'islam. Davantage la spiritualité que la civilisation, hein, lui Blin, Huyblin, vous êtes docteur en histoire, un fin arabisant, diplomate, et vous dirigez le programme de recherche sur le Moyen-Orient à l'Institut universitaire européen de Florence. Que connaissait-il de la civilisation islamique qui allait jusqu'à l'empire des Moghols?
Il la connaissait très mal, à mon avis. Il s'intéressait plutôt à la Chine, du point de vue de l'histoire des civilisations. Et en fait, ça lui importait peu. C'est pour ça que les musulmans qui le lisent sont un peu déçus. D'ailleurs, il suffit d'aller voir la maison de Victor Hugo, donc Place des Vosges à Paris, pour voir que là-bas, il n'y a que des Chinois.
Mais et avec Juliette Drouet, oui. Il n'y a que des chinoiseries, comme
voilà,
on dit maintenant.
Exactement. Mais c'est encore une fois une preuve de la curiosité insatiable de Hugo, qui en même temps, donc bien sûr, s'intéressait à l'Orient lointain et se consacrait de facto dans ses poésies à l'Orient proche. Alors, il y a tout de même une relation curieuse, donc, puisque les musulmans, donc, qui ont notamment lu le grand poème de la légende des siècles intitulé L'an neuf de l'Égir, sont persuadés que Hugo s'est converti à l'islam sur ses vieux jours, parce que, à leur sens, quelqu'un qui écrit des choses aussi magnifiques sur le prophète ne peut être que musulman. Alors tout cela, évidemment, ça montre d'une part donc sur la façon dont Hugo est connu dans le monde arabe et musulman plus en général, et d'autre part le besoin de reconnaissance des musulmans, puisque évidemment si le plus grand des écrivains français respectait le prophète, pourquoi est-ce que le vulgum pecus de tous les jours ici ne le fait plus? Ça paraît contradictoire.
Et c'est une fragilité d'esprit qui consiste à vouloir récupérer ou s'approprier, fût-ce tardivement ou d'une manière indue, des choses comme ça de l'histoire, parce que la même affaire est posée avec pour Napoléon.
Oui,
aussi.
Tout à fait.
Est-ce de la coïncidence ou pas la description du paradis coranique ou des délices paradisiaques, et puis cette affaire du jujubier de l'extrême limite que les mystiques musulmans méditent parfois à en pleurer?
Oui. Alors ça, c'était le passage probablement qui a amené Hugo à écrire le second grand poème de la légende des siècles,
le cèdre.
Le cèdre, c'est un arbre symbole d'éternité, et il met en scène cet arbre comme médiateur entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam et le christianisme, puisque le cèdre qui pousse à Jeddah, donc à côté de la Mecque évidemment, est chargé d'une mission à la part du calife Omar ibn al-Khattab, une mission d'aller ombrager Saint Jean, qui est l'auteur de l'Apocalypse, endormi à Patmos. On dit que Saint Jean n'est pas mort et qu'il repose donc dans cette île de la mer Égée. Donc ce voyage aérien du cèdre, il le met en scène d'une façon qui rappelle étonnamment l'Isra de Mahomet dans la littérature musulmane, et d'autre part il se trouve que il est impossible qu'un cèdre puisse croître dans le désert Jeddah, donc évidemment il s'agit d'un arbre symbolique, sinon il n'aurait pas choisi de cèdre pour héros de cette poésie. Or l'arbre donc dont vous parliez, cher élève, que Mahomet finit par atteindre à l'entrée du paradis, donc au Mirage, c'est le cèdre. Et il est clair dans mon esprit que Hugo connaissait ce nom, c'est Sidrat al-Muntaha en arabe, et que pour lui, donc, le cèdre, c'est le cèdre coranique.
Par rapprochement comme ça sonore phonétique, ou pour lui c'est le cèdre, un lien avec Sidrat al-Muntaha, que d'aucuns disent qu'on s'est rapproché du tapis la familiarité divine, hein, donc Bisatul Uns, dans cette ascension mystique du prophète. C'est peut-être pas le sujet, on pourra en parler une autre fois si vous le souhaitez, cher Louis Blin. Le temps s'écoule et peut-être ces deux poèmes majeurs ou fondamentaux que sont l'an 9 de l'Égir et le Cèdre, si vous me pardonnez l'impudeur de parler de ma petite personne, moi j'ai appris écolier, un extrait de l'an 9 de l'Égir.
Mais où ça ?
Dans une école à Alger.
Ah oui, extraordinaire.
Où on nous a enseigné. Un cheikh lui dit, enfin ce que la partie, ô chef des croyants, le monde, sitôt qu'il t'entendit, en ta parole crue, le jour où tu naquis, une étoile apparut, et trois tours du palais de Khosroès tombèrent. Parce que c'est vrai qu'il y a cette légende où le jour où le prophète de l'islam, celui qui deviendra prophète de l'islam, le jour où il est né, trois tours du palais de Khosroès, donc chez les Sassanides, se sont écroulés.
C'est ça. Non, mais c'est, ce que vous dites là m'enchante, parce que justement, bien sûr, j'ai écrit ce livre parce que je m'intéresse à Victor Hugo, mais aussi dans un but tout de même de rapprochement entre l'islam et notre culture. Or, dans les écoles françaises, tout le monde apprend du Victor Hugo, mais personne, en tout cas en France, et moi, j'élargis peut-être abusivement ma propre expérience, personne n'a jamais entendu parler que Victor Hugo s'intéresse à l'islam. D'ailleurs, il suffit de faire un sondage dans la rue, même auprès du grand public cultivé, si on vous dit que, si on demande à quelqu'un, est-ce que vous savez que Victor Hugo s'intéresse à l'islam, il vous prendra pour un demeuré. Donc, alors, vous avez eu ça. Moi, là, je me rappelle très bien avoir appris les djinns, poème des orientales à l'école, extraordinaire, bien sûr, pour diverses raisons, mais ce qui est passé tout à fait inaperçu, en tout cas dans l'explication de mes enseignants que je révère, c'est que dans le djinn, Victor Hugo recommande la prière musulmane pour éloigner les démons. Là aussi, c'est tout de même confondant. On a une amnésie inconsciente de tout ce qui se rapporte à l'islam dans l'œuvre de Victor Hugo. Or, si les musulmans savaient que les Français, donc les Français musulmans qui apprennent Victor Hugo avec leurs camarades non musulmans, s'ils savaient que Victor Hugo, donc qui est le sommet de leur culture, respectait leur religion, ça serait de nature à leur donner plus de confiance en eux. Et de l'autre côté, si les non musulmans parmi leurs camarades comprenaient que Hugo a écrit quelque chose, et même peut-être apprenez, lisez quelques vers de Victor Hugo sur l'islam, ça les entraînerait à mieux respecter leurs camarades musulmans.
Je le dis puisque j'y ai pensé à l'instant, et de même pour le théorème d'Al-Kashi qui étend le théorème de Pythagore au triangle non rectangle. Mais en dehors de la parenthèse, finissons sur un autre, donc l'autre poème, le Cèdre, dans lequel, et vous l'avez dit en partie, il y a cette continuité, enfin il voit dans le prophète de l'islam, je parle de Victor Hugo, une sorte de continuateur ou propagateur de l'enseignement du Christ.
Oui, donc Hugo inscrit bien dans ce poème, de façon bien sûr tout à fait mystique, la mission de l'islam comme complémentaire de celle du judaïsme et du christianisme, de même que le Mi'raj avait évidemment fait la même chose. Donc,
enfin, le Mi'raj, pour nos amis auditeurs, c'est l'ascension céleste après la chevauchée nocturne de la Mecque à Jérusalem, et puis de Jérusalem à l'empyrée céleste ou à l'apex, comme disent certains. Nous sommes sur France Culture, donc j'utilise délibérément ces appellations.
Très bien. En gros, Hugo s'est raconté dans toutes ses œuvres, ce qui est assez classique. D'ailleurs, l'un des caricaturistes, à la suite de ce poème, a très justement représenté Hugo sous les traits d'un cèdre. Donc, Hugo, c'est,
comme Honoré Daumier l'avait caricaturé oui. Au moment où il était à la, élu député.
C'est ça, voilà exactement. Donc, Hugo était un homme océan, mais aussi un homme arbre. Il divinisait les arbres. Donc, son poème Le Cèdre était pour lui une de ses façons de se mettre en un état de montrer à son lecteur que chacun d'entre nous, lorsque on retrace la légende des siècles, puisque la légende des siècles, c'est en fait l'épopée de l'humanité. Hein. C'est la seule grande épopée française, d'ailleurs. Donc, quand on retrace la légende des siècles, eh bien, on doit dans notre culture réunir tout ce qui nous a formés, y compris donc l'islam. D'ailleurs, la grande conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'être musulman pour respecter l'islam. Et là, Hugo le démontre de façon magistrale.
Vous avez parlé tout à l'heure de Saint Jean, de son ombre. Il y a cette partie donc du poème Le Cèdre où il dit. Je le lis pour nos amis auditeurs. Cheikh Omar étendit à l'horizon sa main vers le nord habité par les aigles rapaces et montrant au vieux cèdre au-delà des espaces la mer Égée et Jean endormi dans Patmos, il poussa du doigt l'arbre et prononça ces mots « Va, cèdre, va couvrir de ton ombre cet homme ». Et c'est avec cela que nous finissons notre entretien. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Merci à vous et merci aux auditeurs qui s'intéressent à cet épisode de notre culture, encore une fois. N'oublions pas que Hugo était un fervent admirateur du prophète et de la religion musulmane, pas seulement de l'Orient comme ce qu'on pourrait le croire.
Bien, sur ces paroles-là, je vous dis, chers amis auditeurs, que nous étions ensemble à l'émission Questions d'Islam et vous la retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son est assurée aujourd'hui par Xavier Lévesque et la réalisation est assumée par l'ami François Connac. Souviens-toi.